Je crois que pour ta revue de presse, il était difficile de ne pas parler des gilets jaunes.
Et oui, Rémi, en effet, ils sont partout sur les routes comme dans les journaux. Le Monde d'abord nous propose un tour de la France des gilets jaunes, cette France invisible qui souffre de l'impitoyable intransigeance des pouvoirs publics. À Montferrier, dans l'Ariège, le maire parle d'une classe moyenne submergée par les impôts. Christian Estrosi, de braves gens inquiets, et le maire de Guéret affirment que les petites gens ne sont pas violents. Nous voilà donc rassurés, jusqu'à ce que l'article prenne un ton presque dramatique et se transforme en une énumération d'adjectifs pour décrire ces oubliés du gouvernement, ces interstitiels ou ces laissés pour compte. Nous sommes des invisibles, des inaudibles, mais nous existons, résume un habitant du Finistère qui se dit plongé dans une angoisse existentielle. Chez Valeurs Actuelles, on n'hésite pas à remuer le couteau dans la plaie. Les invisibles ont revêtu un gilet jaune pour qu'on ne puisse pas les confondre avec le décor.
Ces gilets jaunes qui sont donc vraiment partout dans tous les titres, Marie.
Eh bien oui, et même si certains journaux remplissent sagement leur rôle en nous rappelant que l'actualité ne se résume pas aux gilets jaunes, tout est prétexte à établir des parallèles avec ce mouvement qui traverse et divise les territoires français. Le Canard, par exemple, fait sa une sur l'arrestation pour fraude fiscale du PDG de Renault, mais ne peut pas s'empêcher de parler de « gilets jaunes ». L'Obs, en revanche, ne cessait pas aux jeux de mots, et voit dans la simultanéité fortuite entre les gilets jaunes et l'arrestation de Carlos Ghosn un violent choc des symboles. D'un côté, ce qui coûte d'après Macron un pognon de dingue, de l'autre un dingue de pognon. D'un côté, des citoyens exclus et de l'autre, un chantre de la globalisation heureuse. Moralité, l'argent, l'avidité et les inégalités règnent en maître et ce sont eux les coupables de la croissance des mouvements populistes et anti-système. Coupable, c'est d'ailleurs comment se sent le gouvernement actuellement. Le Monde, qui parle d'un mea culpa à visage découvert, cite Philippe, nous n'avons pas su répondre au terrain. Une élue, qui s'exclame, on est trop technocratique. Ou une autre, qui n'hésite pas à affirmer, on a négligé le fait que les réformes bouleversaient la population. Un mea culpa qui a sans doute amené Macron à recevoir 2000 maires de France à l'Élysée, pour ce que le Figaro qualifie sans complaisance de câlinothérapie. Remarquez qu'en parlant de câlinothérapie, il y en a un qui en aurait bien besoin, c'est notre président. Alors que Libération titre « Le gilet vert est de retour » et consacre un article au retour de Hulot sur le plateau de l'émission politique ce soir, le Figaro préfère insister sur les difficultés de Macron à se faire bien voir des écolos à l'approche du scrutin européen et résume magnifiquement la situation « Un seul Hulot vous manque et tout s'est effondré ». N'empêche que Hulot a de quoi se faire du souci, puisque ce matin dans Le Monde, la Gironde et l'Aube sont les grandes gagnantes d'un prix dont elles se seraient sûrement passées, les Glyph Awards. Et oui, d'après un rapport de l'association Génération Future, en Aube et en Gironde, on achète 3 tonnes de phytosanitaires par an, soit 1 kg de glyphosate par hectare vendu chaque année, contre une moyenne nationale de 300 grammes, nous apprend le journal, qui publie une cartographie édifiante de la consommation française de pesticides.
Tout s'effondre, certes, mais on peut donc aussi en tirer quelque chose.
Et oui, puisqu'au-delà de la polémique, l'historien Pierre Vermeuren nous propose dans Le Figaro d'aller au-delà des polémiques pour tenter de comprendre le phénomène. On nous explique donc comment la multiplication par 3 du prix de l'immobilier à Bordeaux a conduit à l'éloignement des classes moyennes et populaires chassées de la ville-centre, classes populaires qui continuent de travailler à Bordeaux, d'où une dépendance croissante à l'automobile. Et en parlant d'inégalité, c'est Libération qui consacre une enquête à l'illettrisme numérique. L'utilisation poussée d'Internet resterait le propre des classes supérieures, tandis qu'un vaste groupe de jeunes de milieux populaires ou ruraux serait condamné à l'électronisme et enfermé dans un statut de « digital immigrants ». L'électronisme, c'est bien beau, mais pour Jean-Michel Blanquer, à la une du Monde de ce matin, c'est d'abord à l'illettrisme qu'il faut s'attaquer. Le ministre l'affirme haut et fort, c'est tout le système scolaire qu'on veut tirer vers le haut. Nous créerons des programmes passionnants, briserons le confinement intellectuel et tracerons les voies de l'émancipation. Alors c'est joli sur le papier, mais en réalité, ça laisse sceptiques les élus qui dénoncent un projet conçu pour l'élève idéal, plus que pour l'élève réel, et un programme d'histoire trop centré sur la politique et le roman national.
Un roman national qui semble se fissurer avec la publication d'un rapport sur la restitution des objets d'art africains. On y vient enfin.
Et oui, on y vient enfin, désolé pour se rater. Et oui, puisque Le Monde a en effet choisi de titrer ses pages culture « Art africain, la France coloniale au rapport ». Restituer aux États subsahariens les quelques 90 000 pièces africaines possédées par les musées français, c'est une initiative louable certes, mais l'article souligne aussi les difficultés de la démarche. Comment s'assurer du consentement des propriétaires des objets, pourtant obligatoire? Comment savoir aussi à qui restituer des objets pillés avant l'établissement des frontières actuelles par la colonisation? Et à quel prix revendre des objets souvent acquis par le troc? Là-dessus, constate Le Monde, le rapport reste muet. La Croix, elle, propose que les opérations de restitution soient davantage un sujet de coopération nord-sud entre musées et qu'ils s'effectuent dans une volonté de mise en commun plutôt que de revanche, dans un article qui cherche à donner sens à une activité chaotique. Comme dans Libération d'ailleurs, qui nous propose à l'occasion du centenaire de 1918 de tirer des enseignements de la Grande Guerre. La Grande Guerre a révélé le triomphe de l'industrie et de la logistique, l'usage effréné des corps comme instrument de combat, le mépris absolu des terroirs et des territoires transformés en arènes de combat des hommes, écrit Johann Chapoutot. La Grande Guerre a marqué le triomphe de l'asservissement et du capitalisme au mépris de la vie, de la rationalité d'un calcul déshumanisant et d'une tension vers l'utile et du productif qui constitue et structure encore notre monde. Et puisqu'on est sur du joyeux et du positif, continuons un petit peu. Alain Raymond, dans son billet paru dans La Croix, nous enseigne une nouvelle notion, la solastalgie, ou l'impression de ne plus reconnaître un lieu où l'on habite pourtant depuis des années, le sentiment de mal du pays et de dépossession que l'on ressent tout en étant chez soi, un mot qui, je cite, est bouleversant, inventé pour décrire l'un des maux les plus désolants causés par l'humanité.
Et pour finir sur une note un petit peu plus positive.
Et oui, on la trouvera cette fois-ci dans La Croix, qui nous donne une bonne idée de sortie pour ce week-end et nous informe que le Grand Palais accueillera l'usine extraordinaire. Une exposition qui vise à faire découvrir aux quelques 50 000 visiteurs attendus le fonctionnement d'une entreprise industrielle et l'ambiance d'un atelier de production. Le but est clair, nous dit-on, réconcilier les Français avec l'industrie et montrer que la France est et restera un grand pays d'industrie. Pays d'industrie, certes, mais pays des initiatives solidaires aussi, puisque dans l'humanité, il n'est question ni de gilets jaunes, ni de patrons déchus, mais justement de Mobicoop, une société coopérative d'intérêt collectif qui se veut alternative sociale et solidaire aux plateformes en ligne comme Uber ou Deliveroo. Pour cela, les objectifs sont clairs, nous dit l'humanité, devenir une plateforme de covoiturage dynamique pour ériger un modèle de bien commun des mobilités. Une note d'optimisme que l'on accepte volontiers.
Merci beaucoup Marie pour ce petit tour d'horizon de la presse.